Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1, la plus résiliente de toutes les radios, avec Gilles Brézard de l'autre côté de la vitre, dont je ne vois plus que la mèche qui a disparu. Et donc, nous sommes dans La vie est un roman, c'est formidable, il est mardi matin, vous êtes pris dans les embouteillages qui sont beaucoup plus prononcés aujourd'hui, vu qu'il y a une grève des trains et des RER. Donc on va essayer d'occuper cette heure et comme ça vous serez un peu moins énervés. Et j'ai deux invités. L'une, Aline Vidal, organise une non-exposition dans une non-galerie de non-art contemporain. C'est une révoltée qui va nous expliquer comment ça fonctionne, son non-art et ses dérives. Donc c'est sa deuxième dérive. La précédente avait lieu sur l'île de la Cité, un endroit bien connu de tous les révoltés, et avec Eric Auguste qui va présenter bientôt à Montreuil, à La Parole Errante, un spectacle autour de deux poètes arabes. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et donc Aline, de quoi s'agit-il au marché Beauvau à la place d'Aligre avec cette non-exposition de non-art contemporain et de non aussi un discours sur la marchandise en fait. Les prix sont affichés au marché et on va pouvoir voir de l'art contemporain en achetant son fromage ou sa charcuterie.
Non, en effet, en fait, depuis quelques années, j'ai décidé de quitter ma galerie classique pour devenir une galerie que j'appelle non-galerie, c'est-à-dire que je sors des murs classiques de la galerie pour opérer des déplacements. Alors, en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup venir au plus près de la société civile, essayer de travailler avec le monde tel qu'il est et pas enfermé dans une bulle, dans une galerie. L'art contemporain, ça fait peur. L'art contemporain, on trouve ça souvent, c'est une espèce de fourre-tout. Donc, essayer de faire comprendre au public, à nous tous, ce que c'est qu'un artiste, ce qu'il peut faire, et essayer de trouver cette proximité. Et donc, quand je me suis rendue au marché Beauvau, place d'Aligre, alors là, tout de suite, j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ça ressemble à une foire d'art contemporain, ça ressemble à la FIAC, c'est exactement la même configuration. Il y a des allées et il y a des stands. Eh ben, faisons la même chose qu'à la FIAC ou comme dans une foire d'art contemporain, mais dans un marché. Voilà, ça, c'était le pari. Et donc, il y a 18 commerçants magnifiques et j'ai invité 20 artistes. Donc, les commerçants sont comme des galeristes et les étals sont comme des stands, en fait. Et les 20 artistes que j'ai invités ont vraiment joué le jeu et ont travaillé en connivence avec les commerçants, et ça donne une exposition qui ouvre la semaine prochaine à partir de mercredi et qui va être assez détonnante. C'est de tous les univers, alors il y aura même des peintures, enfin, j'ai même des peintures, parce qu'en fait c'est pas facile de faire une exposition dans un marché parce qu'il n'y a pas de mur. Donc vous allez trouver des objets curieux au milieu de poissons, des fruits et légumes. Vous allez avoir des performances d'artistes qui vont venir comme ça perturber le marché, mais de façon positive. Et puis, il y a un jeu des 7 erreurs, par exemple. Les commerçants, on va modifier des éléments décoratifs d'un commerçant à un autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une... Je ne veux pas tout dire, parce qu'autrement, c'est trop facile. Mais il va y avoir, par exemple, une plaque du boucher chez le poissonnier. Alors, il va falloir trouver... L'art, c'est à la fois sérieux, mais c'est aussi un jeu. Et il faut que tout le monde participe à ce jeu. Finalement, on est tous là-dedans. Et voilà ce que c'est un peu mon histoire.
Et donc, oui, il y a, par exemple, Fabrice Hibert et puis Esther Ferrer, Arnaud Labelle-Rougeau.
Anne Ferrer, oui.
Anne Ferrer, pardon, oui. Ouais. Et donc Anne, elle fait un gros gonflable qui sera sur le toit, c'est ça ?
Une espèce de bestiole. Ouais. En fait, il faut voir que cette halle Beauvau a une magnifique charpente qui a été refaite par des compagnons après parce que ça a brûlé.
Voilà.
Et donc on lève pas tellement les yeux. Et son projet, en fait, c'est de nous faire lever les yeux sur une forme gonflable comme ça, comme une espèce d'animal qui va respirer au-dessus de nos têtes. Le projet de Fabrice Hibert, je ne sais pas si je peux le dévoiler, mais en fait, il a un rapport avec les gilets jaunes, sauf qu'il faut changer la couleur du jaune avec une autre couleur. Et donc, il va y avoir des opérations un peu très sympathiques, en fait, en rapport avec, avec notre climat, hein, le vert climat. Mais je ne vous dis pas plus, parce qu'autrement, ce serait pas drôle. Il y avait 20 artistes, c'est des générations très différentes, de nationalités très différentes. Ils ont entre 25 ans et 80, plus de 80 ans. C'est Jacqueline de Jonc qui est une des rares femmes qui a participé au courant situationniste qui sera là, avec un projet très situationniste, puisque, en fait, depuis quelque temps, elle fait germer des pommes de terre. Et ces germes de pommes de terre, c'est comme des déviations, même si ça rappelle cela, ça la dérive, en fait. Et en fait, elle fait des bijoux avec ça. Donc, elle enferme la pomme de terre dans de l'or, de l'argent, tout ça. Et donc, ça va être dans les fruits et légumes. Donc, il y aura plein de choses comme ça, un peu, enfin, des objets, mais de l'art aussi. Et, mais en proximité, je veux dire, on sera là tous les jours au marché, et on sera en proximité avec la vie. Voilà, la vie, l'art contemporain ne peut pas être coupé de la vie. C'est tellement important. Je ne sais pas, toutes ces foires d'art contemporain qui se multiplient, très bien, très bien. Mais c'est coupé. Les artistes, les galeries sont souvent coupées du monde réel. Et c'est ça que j'essaye de faire, comme ça, avec modestie, au marché Beauvau. Ce sera la dérive 2, et après, il y aura d'autres dérives chaque année.
Et donc, l'idée, c'est de rapprocher. J'ai été à la Fondation Cartier, où il y a une exposition sur les arbres, et où Fabrice Hibert est très présent aussi, beaucoup d'artistes d'Amérique du Sud. Et j'ai eu l'impression que les gens étaient assez contents. Il y avait énormément de monde, c'était un dimanche après-midi. Et ça faisait assez populaire pour un endroit qui est quand même assez menaçant, assez difficile, qui est à la fois sur le lieu, la façon dont il existe, ces grandes parois en verre, cette espèce de petit jardin autour. Et les gens avaient l'air quand même assez à l'aise. C'était bon enfant, et il y avait d'ailleurs beaucoup d'enfants.
Parce que le sujet est très chaud, quoi. En fait, c'est tellement important. Les arbres, qu'est-ce qu'on va devenir sans les arbres? C'est notre poumon. Enfin bon. Et beaucoup d'artistes ont cette conscience-là. On a tous cette conscience-là. Mais les artistes, ils pointent souvent le doigt, même toujours, sur ce qui se passe dans notre monde. Et ça, c'est vrai que c'est faire une exposition autour des arbres, c'est absolument passionnant.
Il faudrait peut-être défaire cette notion d'art contemporain massif, comme ça. Il y a entre Jeff Koons et puis les gens que vous allez exposer, il y a quelqu'un comme Jacqueline de Jonc qui était assistante au Stedelijk Museum dans les années 60, quand elle rencontre Asger Jorn et qu'elle devient sa maîtresse, a quand même une autre existence que Jeff Koons, par exemple. C'est Saatchi et Saatchi, donc les gens qui ont fait le logo de la Société Générale, par exemple, la banque, que vous voyez, qui sont des publicitaires, qui ont créé toute une génération d'artistes qui sont très, très friqués. Ils ont un lieu à eux qui est à Londres et que les gens aiment beaucoup aussi, qui est très, très ludique parce qu'ils ont une vision spectaculaire de l'art, enfin, qui fonctionne assez bien. Les gens aiment ça, c'est des choses dans des fausses perspectives, des illusions, une vierge avec du pipi, un éléphant avec du caca, des choses un peu régressives, comme ça, un peu transgressives, qui plaisent. Une dame qui avait brodé le nom de tous les amants avec qui elle avait couché sur son matelas, qui a eu un prix anglais important. C'est de la communication, ça fonctionne.
Oui, enfin, pas que, parce que dans tout ça, en fait, il faut pas faire d'amalgame non plus. C'est vrai que, dans ce que vous venez de dire, il y a aussi des très bons artistes. Donc, le problème, c'est que tout est un peu confus, quoi. C'est une espèce de grosse masse comme ça, et il faut vraiment avoir des.
Si j'ai bien compris, le problème, c'est l'argent.
Alors, le problème.
Ce qui fait la distinction au sens de Bourdieu, c'est que les classes dominantes veulent montrer qu'elles sont dominantes et accordent un certain prix à des biens symboliques. Et c'est des prix qui paraissent faramineux. Ouais. Et donc là, par exemple, au marché, on ne fera pas faire payer d'entrée pour voir des œuvres d'art. Elles seront accessibles. Si on vient au vernissage, on pourra même parler aux artistes qui sont déjà
membres. Absolument. Mais sans mauvais jeu de mots, l'art contemporain est un énorme fromage. Donc... Et puis, il y a les multinationales, les galeries, qui sont des vraies multinationales et qui peuvent survivre quand ce développement à l'excès, et en ouvrant des antennes à l'étranger. Et puis, il y a ce que j'appelle les galeries qui font du commerce de proximité, qui sont nos petits commerçants. Et on les aime, ceux-là, non ? Et donc, ceux-là, il faut les garder, il faut continuer, c'est dur, mais il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Moi, j'ai un peu abandonné le petit commerce, je fais de la navigation pour aller de quartier en quartier, et puis pourquoi pas aussi en province, à l'étranger, essayer de faire des dérives ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est ça qui maintient en vie. Et je vois que les artistes, ils suivent, ils sont excités par ça. Enfin, mais ce lien entre les commerçants et les galeries, là, c'est vraiment fabuleux. Et donc, ça dure 13 jours, du 2 au 13 octobre. Et on sera là aux heures de marché, évidemment.
On pourrait dire animation, donc c'est performance.
Ah, j'aime pas le nom animation.
Ah, ouais, alors, non, évidemment.
Il n'y a pas d'animation.
Mais il y aura des événements tous les jours.
Non,
événement, on peut
dire
événement.
Les commerçants, ils vont dire, encore de l'animation. Non, ça, on ne va pas faire de l'animation. Non,
c'est
pas du tout.
C'est vrai qu'au Centre Leclerc, on fait de l'animation
oui, c'est
avec
ça,
un
avec des
micro.
Jingles.
Et puis,
non, ben non, là, il n'y aura pas.
Je m'étais inscrit pour aller voir Nabila, mais en fait, c'était en banlieue, c'était un peu loin.
Non. Voilà, il y aura de l'art et de la proximité avec l'art.
Mais il y aura des événements tous les jours.
Oui, c'est ça. Il y aura
ça
des
va, événements comme, il y aura des, comme terme.
Voilà, on va être étonnés, je l'espère.
Ouais. Et donc, vous aviez un petit texte d'Arnaud Labelle-Rose.
Alors, j'aime beaucoup, entre autres, le projet d'Arnaud, parce qu'en fait, sans tout déflorer, mais il va déposer dans quelques endroits, dans quelques étals, des livres de San Antonio qui ont des titres, mais truculents. Comme La fin des haricots, les anges vont se plumer, le fil à couper, le beurre, du poulet au menu. Et Arnaud, il a écrit un très, très, très joli texte, très poétique, qui s'appelle Le Mercado San Antonio. Et que, voilà, qui nous livre comme ça, qui sera dans la brochure qui est éditée pour l'occasion.
C'est long ?
C'est assez long, mais on peut en lire une partie si vous voulez.
On peut essayer, oui. Voilà, nous voilà au marché Mercado d'Alegria. On imagine que c'est comme ça qu'ils l'appellent, San Antonio, le marché Beauvau, place d'Aligre. Un souvenir d'Espagne, sans doute. Goût du flamenco, peut-être. Mais non, on est à Paris, au cœur du faubourg Saint-Antoine, Barrio San Antonio. C'est un lieu culte, le marché d'Alegria. Celui des plaisirs de la bouche ? Pas seulement. Joie pour les yeux aussi, couleur, un vrai théâtre archimboldesque. Beaucoup de monde dans les travées, abondance sur les étals, nature morte télescopée. On pourrait, comme chez Rabelais ou mieux, comme chez Zola, dresser des listes accumulatives d'aliments selon les saisons, détailler les poissons, les crustacés, la parade triomphante des fruits et des légumes, les paysages de viande, de volaille, de charcuterie, les viennoiseries et pâtisseries, les pyramides de fromage. Oui, les raies, mulets, turbots, thon, sole, truite, saumon, etc. Et les homards. Les langoustes, écrevisses, calamars, sèches, crevettes, moules, bigorneaux, les bourriches d'huîtres, etc. Et l'empilement des pommes de rainette et pommes d'api rouges et des poires, pêches, abricots, melons, bananes, pastèques et les fraises et les framboises, etc. Et les tomates, radis, poireaux, carottes, artichauts, salades, choux, champignons, concombres, aubergines, courgettes, pommes de terre, etc. Et les souris d'agneau, les gigots de mouton, les filets de bœuf, les entrecôtes, les cochons de lait entier, etc. Et les poulets fermiers déplumés, et les oies, les canards, et les jambons suspendus, les pâtés, terrines, foie gras, rillettes, boudins, andouillettes, saucissons, saucisses, etc. Et les olives, vertes et noires, et les huiles, les vinaigres balsamiques, les bocaux de condiments, etc. Et les chaussons pommes, les baba au rhum, les millefeuilles, les paris-bresse pralinés, les fraisiers à la pistache, les éclairs au chocolat, etc. Et les 258 variétés de fromage. 258. Et puis il y a les fleurs aussi, et les senteurs, et les sons, litanie infinie. C'est assez troublant du reste, comme une bibliothèque remplie de livres. Le vertige vous prend. Monte à la fois fragmenté, chaque élément n'existe que pour lui-même et totalisant. À la fois ordonné et profus. Idéal décor pour imaginer la trame d'un roman policier à la française. Un vague fil de feuilletoniste prétexte à produire des calembours jubilatoires qui donnent les titres des aventures, la piste du langage, des mots, des associations d'idées. Voilà d'où vient Mercado San Antonio. Promenons-nous avec lui, avec le commissaire San Antonio. Arnaud Labelle-Rojou. Ben, faut le féliciter, il a réussi à pas faire de jeu de mots, ça c'est vraiment très fort, il nous a épargné. C'est très sec à l'os, hein. C'est bien. Eh bien voilà, donc, alors on va parler avec Eric. Et donc Eric, tu fais un spectacle autour de deux poètes arabes.
Voilà, la poésie de Mahmoud Darwish, poète palestinien. Et Badr, alors que les gens de langue arabe excusent mon accent, Badr Chaker Asseyab, qui est un poète irakien, qui est mort en 1964 à l'âge de 38 ans, et que moi je considère comme je suis pas tout seul, mais comme un des plus grands poètes, et pas seulement du monde arabe. Et j'ai vraiment à cœur de donner à entendre sa poésie, comme celle de Darwish, mais bon, Darwish est un peu plus connu, on va dire. Parce que je trouve que c'est un scandale de méconnaître à ce point ce poète, quoi, qui est à la hauteur des Neruda, des Mayakovsky, des Rimbaud, des... Et voilà, donc c'est une espèce de... C'est un combat, quelque part, quoi, de donner à entendre la parole de ces deux immenses poètes, et qui sont, justement, parce qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, lier notre activité à ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, avec les musiciens, en tout cas, nous, c'est notre principal souci, quoi, de vraiment répondre à ce qui se passe aujourd'hui, les migrants, les quartiers, enfin, bon, le chômage, etc., etc., quoi. Voilà.
Et donc, ce Asseyab...
Badr Chaker Asseyab.
J'essaie d'économiser son prénom, déjà.
J'ai mis du temps aussi.
Non, mais je suis un peu dyslexique sur les noms propres, en général. C'est culturel, c'est parce que je suis bruxellois, et quand tu es précis, c'est considéré comme un trait de pédantisme. C'est très, très mal vu.
D'accord.
Il faut toujours être un peu imprécis pour montrer que tu es un type normal. Et donc, ce monsieur Morjane a la réputation d'avoir... créer en fait la poésie arabe moderne. Je m'imagine qu'il a changé le vocabulaire.
C'est le premier qui a. Enfin, alors moi, je suis un peu. Moi, pour moi, c'est Nazik Al-Malaika, qui est une poétesse irakienne et qui est née une dizaine d'années avant Seyab. Et c'est les deux. Enfin bon, on va dire. Allez, ce sont tous les deux les premiers qui ont écrit en vers libre. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'ils sont à l'origine de la poésie arabe contemporaine. Voilà. D'accord. Et ce qui caractérise Seyab, c'est, avec Nazik al-Malaika, l'ange, parce qu'en arabe, Malaika, c'est l'ange, ils sont à l'origine de la poésie arabe moderne. Mais ce qui les caractérise aussi tous les deux, c'est que c'était des visionnaires, quoi. On a, par exemple, un poème de Nazik al-Malaika, « Les brigands », qui met en garde déjà contre Daesh d'aujourd'hui, par exemple. Et c'est un poème qu'elle a écrit au début des années 60, quoi. Et en expliquant, et Seyab aussi, qu'entre à la sortie de la colonisation anglaise, entre une dictature politique où les gens sont torturés, emprisonnés, etc., bah, que c'est un formidable terreau pour ce qu'on a connu avec Daesh, par exemple. Voilà.
Mais donc, je sais pas jusqu'à quel point ça t'intéresse et que tu connais ça, c'était un régime marxiste, c'était le base.
Oui, oui. Enfin bon, avec des dérives.
Mais qui était très tolérant vis-à-vis, enfin, qui était avant-gardiste dans son rapport aux femmes, par rapport à toutes les régressions actuelles, passées, présentes et à venir.
Oui. Enfin, sauf que Nazik al-Malaika, par exemple, à un moment donné, a dû s'exiler en Égypte, justement, parce qu'elle était une femme, quoi. Parce qu'elle prenait la parole et que c'était pas si évident que ça, quoi. Il y a quand même, voilà, Je crois que même dans les pays bon, qui ont eu des moments comme ça, où on parlait beaucoup de la libération de la femme, c'est pas si évident comme ça. Puis on n'efface pas des années et des années d'histoire.
On n'en sait rien, on n'y était pas, et tout est très relatif.
Tout est très relatif.
Tout est très relatif.
Donc voilà, moi, c'est ces deux poètes, Mahmoud Darwish qui m'accompagne, enfin, que j'essaie enfin, je marche un peu dans ses pas depuis maintenant une dizaine d'années. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de spectacles autour de la poésie arabe avec des... Alors, quand je dis la poésie arabe, ça va du Maroc jusqu'en Irak, hein, en passant par l'Algérie, la Tunisie, etc., quoi. Mais c'est vrai que Mahmoud Darwish, c'est vraiment, il est toujours présent, quoi, dans les montages que je fais pour les spectacles. C'est vraiment le... Et c'est lui aussi qui me... C'est un ami, quoi. C'est-à-dire que je marche à côté de lui et c'est lui qui m'a parlé de Seyab, parce qu'il a un poème où il rend hommage à Seyab en disant « Tu veux devenir poète, sois donc irakien, mon ami. » Et bon, il m'a présenté Kabani, il m'a présenté Nazik al-Malaika, et puis d'autres poètes, Samir al-Kassim, et des poètes aussi du Maghreb, comme Abdel Latif Lahabi, qui est à la fois poète et traducteur de Mahmoud Darwish, et pas seulement de Mahmoud Darwish, quoi. Mais voilà, Darwish, pour moi, c'est quelqu'un que je découvre petit à petit, parce que découvrir l'œuvre d'un poète, c'est pas toujours très facile, finalement. Il y a souvent des toutes petites portes, ça grince, on a envie de mettre de l'huile sur les gombes, on a du mal à ouvrir, on pousse, puis ça résiste, alors on laisse tomber, on passe à une autre porte, et puis... Mais bon, petit à petit, j'ai appris à rentrer dans son œuvre, donc presque le connaître intimement, quoi. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui a dû aussi se battre contre l'étiquette de poète de la résistance palestinienne. C'est un peu un ghetto, quoi, cette appellation-là, quoi. Et il a dû se battre, quoi, contre ça, quoi, aussi. Et voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, cette bataille? Qu'est-ce qu'il a obtenu contre cet enfermement dans une caricature de militant? Qu'est-ce qu'il y a dans sa poésie, en fait, qui dépasse ce côté schématique, cette vision schématique?
Bah, parce que lui, je veux dire, par exemple, il y a un poème qui est célèbre, c'est « Je me languis du pain de ma mère ». Bon. Et c'est vrai que beaucoup de ses lecteurs ou de ses spectateurs traduisaient la mère par le mot « patrie ». Et pendant des années, Darwish, il a dit non, je parle pas de la patrie, je parle de ma maman, quoi, avec sa bouche, ses seins, ses fesses, son ventre, son odeur. Et puis à un moment donné, Darwish s'est dit bon, après tout, moi j'écris un poème, il est publié, et que le lecteur interprète comme il le veut, quoi. J'ai pas moi à me battre contre ça, quoi. Voilà. Après tout, c'est aussi la liberté. Quand on écrit un roman, le lecteur a toute liberté d'interprétation, voilà. Mais non, Darwish, c'est pour moi avant tout un poète universel. Et d'ailleurs, Darwish l'explique, il dit un poète, c'est pas un porte-parole, c'est pas un porte-drapeau, il ne représente que lui-même, finalement. Même si, dans le même temps, le poète n'est pas coupé des réalités. Darwish a toujours été... très soucieux de ce qui se passe entre Israël et la Palestine, et son combat, ça a été jusqu'au bout de sa vie. Il y a aucun problème là-dessus. Mais en même temps, voilà, la poésie, c'est aussi le droit de parler de l'œil de la plume du paon, par exemple. Voilà, qui est pour lui une des plus belles choses. D'ailleurs, il a écrit un poème et il parle de l'œil de la plume du paon. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais je comprends pas, ça n'a rien à voir avec ton poème, c'est loin de la lutte du peuple palestinien. Et Darwish a répondu, écoute, moi, j'avais envie de parler de l'œil de la plume du paon, et c'est ma liberté. Voilà.
C'est bien, on va écouter un petit morceau de musique, Gilles, s'il te plaît.
Alors c'est Testament d'un agonisant, c'est de Seyab, et déjà il prévient son peuple contre la vipère qui se glisserait sur la terre fraîche d'Irak.
Mmh. les cimetières, vos tristes allées. Je hurle. Je crie. Je crie. Me lamente. Et dans le silence, j'entends l'eau sternée éparpillée dans l'ombre où se répercutent des pas solitaires. Comme si une bête de fer et de pierre rongeait la vie. Point de vue du soir jusqu'au jour. Où est l'Irak ? Où est le soleil de ces matins ? Emporté par un bateau sur l'eau du Tigre ou du Boueb. Où sont les échos des chants ? Qui palpitent comme ailes de pigeons vers les épis et les palmiers. À courant de chaque maison, dans le célèbre de chaque colline disparue, sous les fleurs des plaines. Je meurs ô ma patrie. Je n'ai pas plus haut désir qu'une tombe dans tes tristes cimetières. Et si je demeure sauf, je ne veux rien de la vie qu'une masure dans tes champs, pour tes déserts infinis, pour te garder de l'infortune. Je donnerai les rues et les faubourgs de Londres.
Donc un petit côté Apollinaire.
On peut le dire.
Un soir de demi-brume à Londres, je vis venir à ma rencontre un voyou qui ressemblait à mon amour et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux et honte. Je suivis ce mauvais garçon, main dans les poches, lui les Hébreux, moi Pharaon.
Mais bon là c'était essayable, mais Mahmoud Darwish était très... Bon, tous les poètes sont influencés par... Et Mahmoud Darwish était un grand fan d'Apollinaire, de René Char, c'était un de ses poètes... un de ses poètes préférés. Voilà.
Et donc, d'où te vient cet intérêt pour le monde arabe en général ?
Ah, ça s'est fait un peu... comment dire ? Moi, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis. Hein. Je suis né, je suis un enfant de la Courneuve. Et j'ai
grandi au 4000 ?
Voilà. Et j'ai pratiquement habité toujours en cité, bon, à la Courneuve, à Blanc-Ménil, Drancy... À Montreuil, j'ai dû faire la moitié des cités. Alors peut-être j'étais un petit peu... Voilà, j'ai côtoyé des gens, des amis, des gens formidables. Je sais pas, ça s'est fait un peu par hasard. Moi, j'étais dans le théâtre et ce qui s'est passé en 2002, c'est que on répétait les Fourberies de Scapin. Alors moi, j'adore Molière, hein, c'est pas le problème. Mais... Et puis, il y a eu pendant la répétition, on a appris que Le Pen était au deuxième tour. Et puis, on s'est arrêté, quoi, 30 secondes, et puis on a repris les Fourberies de Scapin, quoi. Et en 2003, on jouait les Fourberies de Scapin, et on apprend que les premiers bombardements américains sur l'Irak, et puis on a continué à jouer les Fourberies de Scapin. Et là, je me suis dit, bon, écoute, faudrait peut-être trouver un truc qui te permette de répondre un petit peu à ce qui se passe, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bon, ce qui se passe en Syrie, avec les migrants qui se mettent en Méditerranée, et puis comme j'étais un peu trop vieux pour faire du rap, j'aurais eu l'air un peu ridicule. Et en discutant avec des amis, bon, ils me connaissaient un peu, et quelqu'un m'a acheté un recueil de poésie de Mahmoud Darwish, « Plus rares sont les roses ». Et le premier poème que j'ai dit, parce que les poèmes, il faut les dire, comme disait Léo Ferré, c'est « Nous datons nos jours avec les papillons des champs, nous avons descendu ». Et je l'ai dit devant un petit public, quoi. Et d'un seul coup, je me suis dit « Bon, il s'est passé quelque chose, quoi ». Et là, il me semblait que j'avais trouvé ce qui me permettait aujourd'hui d'être en lien avec ce qui se passe, comme tu disais tout à l'heure, dans la société, quoi. Pour moi, l'artiste, c'est aussi c'est quelqu'un d'engagé. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui vit dans une bulle. C'est pas quelqu'un... Moi, j'en ai marre aussi de ce discours un peu ambiant qui consiste à dire « Oui, mais tu comprends, faut que les gens y passent un bon moment, parce que la vie est dure, faut un peu oublier ce qui se passe. » Non, moi, le divertissement, ça me... Bon, je suis pas contre. Hein. Mais ça suffit pas, quoi. L'artiste, il doit ouvrir sa bouche. Voilà.
Mais la musique, elle est assez... rock, comme ça, assez basique, on dirait Easy Rider.
Ouais, parce que moi, j'ai eu plusieurs spectacles, plusieurs formations, alors avec de la musique, j'aime pas trop dire la musique arabe, ça veut rien dire. La musique arabe, elle est influencée par tout un tas d'autres musiques, comme elle a influencé, il n'y aurait pas de flamenco s'il n'y avait pas eu la musique arabe. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de barrière très nette entre chaque genre. Quoi. Donc, j'ai eu des formations avec... Bon, alors de la musique arabe, mais j'ai aussi, parce que pour moi c'est aussi une façon d'ouvrir les portes. Moi, les ghettos, j'en ai marre. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais bon, ok, tu donnes à entendre la poésie de poètes arabes comme Darwish, Kabani, Seyab, Samir al-Kassim, mais... Pourquoi de la musique arabe? Pourquoi est-ce que ce serait aussi systématique? Je veux dire, quand tu dis du Rimbaud, t'as pas un béret et une baguette sous le bras, quoi. Et puis t'as pas ton accordéon. Et par exemple, Seyab, pour moi, c'était évident. Évident que c'était du blues, quoi. Voilà. Ça me rappelait, pour moi, il y avait un lien entre, les Noirs, qui travaillaient dans les champs de coton, qui ont créé le blues, et la poésie de Seyab. Et j'ai décidé que oui, les poèmes de Seyab et le blues des Noirs en Amérique, ça allait très très bien ensemble. Et la poésie de Darwish, par exemple dans le spectacle, à un moment donné, elle est accompagnée par une valse, et je trouve, moi, que la poésie de Mahmoud Darwish, poète palestinien, et la valse, eh ben ça marche vachement bien.
Oui, on peut imaginer, c'était une des choses qui me fascinait dans le... au Liban, par exemple, c'est la multitude des communautés. Donc, on peut, en matière de musique, quand tu vas en Israël, par exemple, c'est d'une richesse absolument inouïe. Mmh. C'est, par définition, c'est des gens qui sont au cœur de la music world. Ouais. C'est eux. Hein, je veux dire, tu peux avoir la musique du Yémen, mais au quotidien, quoi. Enfin, par des gens qui sont yéménites.
Tout à fait. Ouais.
Des Somaliens, Et aussi, pour ta remarque sur le flamenco, on peut dire qu'il y a des gitans partout.
Bah oui.
J'avais un copain qui malheureusement est mort, qui était un très grand guitariste de flamenco, qui m'avait invité à l'Opéra Garnier. Et il y avait 5-6 communautés. Il y avait des Indiens, d'Inde, donc. Il y avait des Égyptiens. Et donc, jusqu'à en Andalousie. Et ils étaient tous gitans.
Ouais.
Et donc, ils ont fait le bœuf devant. C'était marrant parce qu'ils ont traversé la salle à la fin de l'Opéra Garnier, ce qui ressemble pas tellement à l'Opéra de Garnier, puis ils ont fait le bœuf sur l'esplanade devant. Ouais. Bon, les flics sont pas venus, mais...
Les insolents.
C'était un peu limite. Les insolents. Je sais pas quel est le type qui avait eu l'idée de faire ce spectacle, mais c'était magnifique. Et donc, tu avais vraiment... Ils s'entendaient très, on voyait très bien qu'au niveau musical, la langue, certaines choses dans la langue leur étaient communes. Donc il y a la Roumanie, évidemment, puisque t'es à Montreuil et puis qu'on parle d'immigrés, les Roumains.
Oui, puis je pense
les Roms, comme ils disent.
Les Roms. Ouais, puis Mahmoud Darwish, en plus, était très attaché à l'universel, quoi. C'est-à-dire que dans un livre où il y a 3 ou 4 interviews, parce qu'on lui dit, mais vous êtes quoi? Il dit, moi, je suis fait de plein de choses. Je suis fait des Cananéens, des Philistins, des Romains, des Grecs, des Anglais, des Français, des Ottomans, des Arabes, voilà, je suis multiple. Et Darwish, pour lui, c'était très, très, très important, quoi. Et il me fait parfois penser à Brassens, vous savez, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, quoi. Oui.
C'est terrible. Bon, pour moi qui suis un vieux monsieur.
Non.
Et je parlais du parti basse, la régression communautariste qu'on a vue est quelque chose de terrifiant.
Ouais, c'est terrifiant.
Je pense que je suis de la génération de ce poète palestinien, à peu près.
Ouais, il est né en 1940. Alors, c'est soit 41, soit 42, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas
un peu plus vieux que moi, mais pas tant que
ça.
Et donc, on avait cette vision universaliste. Le premier, on devait attendre d'avoir 21 ans pour avoir un passeport. Mmh. Le premier voyage que je fais, je suis tombé amoureux d'une jeune fille juive. Je vais à Jérusalem pour la rejoindre. Quand j'arrive, elle est devenue lesbienne. Mais donc, je rentre dans cet univers. Je vais travailler dans un moshav, tout ça. J'ai un moment un patron levantin qui me martyrise parce que je suis blond et que j'ai les yeux bleus. Et donc tout ça est là, et on avait cet esprit universel, en fait. On avait très peu, en fait je suis belge donc c'est ridicule, on peut pas dire, revendiquer le fait d'être belge, ça n'a aucun sens. Donc on est aidé, quand on vient d'un petit pays c'est plus facile pour ce genre de choses, mais quand même la régression est énorme.
Oui, il y a une régression énorme, mais en même temps...
Quand je te demande pourquoi la musique arabe, c'est une question que je devrais pas poser, enfin ça va de soi. Et puis,
ouais, ça va de soi, ouais. Mais moi j'ai du mal même... j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est d'abord c'est une passion, c'est mon goût et puis c'est ma vie quoi. Et puis si j'avais pas ça, bah j'aurais un grand vide dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler de poésie parce que finalement la meilleure façon de parler de poésie c'est de dire les mots des poètes quoi. Voilà c'est. Mais c'est vrai que moi je suis très puis très très ému aussi de parler de Mahmoud Darwish, de parler de Siab. Et pour revenir à Siab justement, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, en même temps je pense qu'il y a de l'espoir quoi. Je vois ce qui se passe en Algérie avec cette jeunesse là qui est depuis quelques mois maintenant, qui est mobilisé, et puis c'est toute l'Algérie, quoi, c'est pas... Et je pense que j'en discutais avec un copain, Yacine, là, qui est algérien, et il me disait, c'est la première fois que l'Algérie est tout entière. Alors, tout entière, il parlait de la jeunesse algérienne. Mais voilà, on est redevenu algérien à part entière. Et il me disait, ça c'est formidable. Après, ce que ça va donner, bon, j'espère que ça va ouvrir sur des lendemains qui chantent, comme on dit. Mais non, moi je pense aussi qu'il y a de l'espoir. On parlait tout à l'heure du Maroc là où les femmes ont signé
Déclaration sur la liberté des mœurs.
Voilà.
Il y a l'une d'elles qui est en procès parce qu'on l'accuse d'avoir eu des rapports sexuels. Une journaliste, en fait, c'est pour la censurer. Mmh. On l'accuse d'avoir eu des rapports sexuels hors mariage et d'avoir avorté. Et donc 486, je dis le chiffre presque au hasard, femmes ont signé une déclaration, un manifeste en disant nous aussi on a eu des rapports sexuels hors mariage, nous aussi on a avorté, enfin sortez de notre utérus, c'est une façon de nous brimer. Voilà. Il y a du boulot, hein. À part ça, il y a du
Bien
boulot.
Sûr. Il y a du boulot. Et puis je pense que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut aussi, on parlait de la Libye, on a parlé de l'Irak, on a parlé...
De la Syrie.
Voilà, la Syrie, il faut aussi que l'Occident arrête de foutre le bordel là-bas, quoi. Parce que la Libye, ce qui s'est passé avec... on a bombardé la Libye, on devait construire la démocratie.
Sarkozy
Voilà. Et puis, finalement...
C'est un désastre total.
C'est un désastre total, et puis il y a Total qui est sur les rangs, et puis voilà quoi. Et en Irak, j'en parle même pas.
Et à propos de ton concert, tu devais nous parler de la puissance invitante,
oui.
C'est des cantines autogérées, un truc comme
c'est
ça.
C'est des cantines autogérées, alors bon, j'ai eu quelques infos, mais le mieux, ça serait effectivement que tu donnes...
Qu'on mette le lien sur le site avec le podcast.
Voilà,
donnera les indications sur
vraiment...
les tu m'enverras le lien.
Ouais, je t'enverrai.
Et je mettrai le lien sur les cantines solidaires.
Bon, voilà. Alors, c'est un événement qui, ça commence le 30 septembre à la Parole Errante. C'est rue François de Bergue. C'est métro, à Montreuil, métro Croix de Chavaux. C'est jusqu'au 6 septembre. Donc il y a des débats, il y a des conférences, il y a des
6
concerts.
6 octobre voilà. Alors tu veux dire
jusqu'au septembre. 6 octobre pardon. Jusqu'au 6 octobre. Du 30 septembre au 6 octobre. Voilà.
Et donc on réécoute un petit morceau de musique, Gilles, t'as ça?
Ouais. N'importe.
On t'entend pas à l'antenne, je pense. Tu grommelles, mais... Ouais, c'est Est-ce vrai. Que les gens dans leur voiture qui sont dans les embouteillages, ils t'entendent grommeler?
Ils grommellent.
Sois arbre. Fécond, sois arbre. Et si tu n'es pas arbre, mon amour, sois pierre. Humide, sois pierre. Et si tu n'es pas pierre, mon amour, sois lune. Dans le songe de l'aimer, sois lune. Voilà que je peux parler d'amour, d'arbre. Sur une route menant à la destination des autres, j'offre une poignée de blé aux pigeons de la ville et j'entends les voix de nos voisins me vriller la peau. Voilà que je peux vivre jusqu'à la fin du mois. Je m'efforce d'écrire ce qui peut convaincre le cœur de battre en moi, l'âme de vivre après moi. Un gardénia est capable de renouveler mon âge. Une femme est capable de déterminer ma tombe. Voilà que je peux aller jusqu'au terme de ma vie en deux, seul et seul. Et je ne peux me compromettre qu'avec les mots que je n'ai pas prononcés, pour acheter ma résidence en bordure de la terre, entre le blocus de l'espace et l'enfer de la dégradation. Je vivrai comme à l'anve que je sois. Je vivrai par la force de ce défi. Lorsque mes paroles étaient humus, j'étais l'ami des épis. Lorsque mes paroles étaient colère, j'étais l'ami des chênes. Lorsque mes paroles étaient pierre, j'étais l'ami des rivières. Lorsque mes paroles étaient révolution, j'étais l'ami des séismes. Lorsque mes paroles étaient coloquintes, j'étais l'ami de l'optimiste. Lorsque mes paroles devinrent miel, les mouches couvrirent mes lèvres. Avec la coupe sertie d'azur, attends-la. Auprès du bassin, des fleurs du chèvrefeuille et du soir, attends-la. Avec la patience du cheval, scellée pour les sentiers de montagne, attends-la. Avec le bon goût du prince, raffiné et beau, attends-la. Avec sept coussins emplis de nuées légères, attends-la. Avec le feu de l'encens féminin partout, attends-la. Avec le parfum masculin du santal, drapant le dos des chevaux, attends-la. Et ne t'impatiente pas, si elle arrivait après son heure, attends-la. Et si elle arrivait avant, attends-la. Et n'effraie pas l'oiseau posé sur ses nattes, et attends-la qu'elle prenne place apaisée, comme le jardin s'appelait une floraison. Et attends-la qu'elle respire cet air étranger à son cœur. Et attends-la qu'elle soulève sa robe, qu'apparaissent ses jambes, nuage après nuage. Et attends-la jusqu'à ce que la nuit te dise: il ne reste plus que vous deux au monde. Alors porte-la avec douceur vers ta mort désirée. Et attends-la.
Alors ça me
à
fait
la sortie de la plaine.
Ça me fait penser à quelque chose d'important à propos d'universalisme. C'est qu'en France, on est très pudique. À Paris, on est hyper pudique et qu'on a un sens du ridicule qui nous plonge dessus à une vitesse dingue. Et si on prend par exemple le formidable film de Jeanne Campion sur une fille qui avait subi des électrochocs, qui est en Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Un ange à ma table, je pense. Et donc, ces gens, c'est une fille qui est forte, elle va à Ibiza, c'est cette époque hippie, là, tout ça. Et ils sont très peu de monde. Hein. Enfin, c'est comme dans Mort, le film avec la musique des Pink Floyd. Et ils se récitent des poésies quand il y a son copain qui veut la draguer. C'est donc dans le domaine anglo-saxon, par exemple, réciter une poésie, on peut le faire. Pour essayer de gagner la partie en fin de soirée et ramener la fille chez soi, c'est une petite poésie. Et chez les Arabes, entre garçons, c'est plus difficile avec les filles, mais on se récite aussi des poésies, c'est normal. Et ça, c'est une dimension. Si moi, à la fin du repas, je me mets à réciter de l'Apollinaire, la personne qui est à côté de moi à la pizzeria à Paris, ça va pas aller. On le sait que ça va pas aller. Je vais passer pour un type pédant, ridicule, bizarre, pervers.
Un original.
Pédophile, même peut-être, c'est vraiment pas normal, quoi. Et ça, Et ça pose toujours un petit problème, oui, quand on fait des performances, quand on met en scène tout ça, quel statut ça a. Parce que, je sais pas, j'entendais du Prévert, par exemple, hier, dans mes écouteurs, et c'est assez désagréable. Enfin, c'est sur Joseph Kosma, la musique Les Feuilles Mortes, là, vous voyez, les chansons que tout le monde connaît. Et c'est des interprétations des années 30. Et c'était tout de suite très désagréable, en fait. Ça allait pas du tout. Bon, Prévert, c'est déjà un petit peu... abscon et emmerdant, en fait. Mais bon, ça, c'est une question de goût. J'aime pas René Char non plus, par exemple. Je suis assez difficile dans ce genre de truc. Mais je me souviens d'avoir vu en Belgique des spectacles jeunes d'Henri Michaud avec un formidable drumiste qui s'appelait Chiren, qui était un très bon musicien. Et c'était bien. Mais pour les Belges, par exemple, Michaud, avec sa lourdeur et tout son pathos, ça fonctionnait bien. Et c'était accepté par la salle. Il y a ce rapport à la salle. C'est un peu gênant aujourd'hui si je viens à la maison de la poésie, et bon, après, on peut discuter, par exemple, Lucini en fait trop, je sais pas, où il y a des vedettes, et tout, enfin, j'y suis jamais allé. C'est vite vu, et c'est difficile de dire poésie ici, chez nous, en français, dans le rapport qu'on a.
C'est-à-dire qu'on a une image un peu bizarre, quand on prononce le mot poète, il y a toujours une connotation un peu un grand type maigre et flanqué.
Tafiole un peu, comme ça.
Qui meurt de faim, c'est l'automne, il est dans un square, les feuilles tombent et il pleut et, non, alors que la poésie, il y a quelque chose de très heureux finalement dans la poésie, même une poésie, enfin elle a du sens, elle est belle, et il y a rien de forcément triste dans la poésie. Il y a des poèmes de Mahmoud Darwish par exemple où moi j'étais mort de rire, quoi. Par exemple, Elle n'est pas venue, bon, c'est un type qui attend une femme, qui espère, et puis il prépare tout, puis elle vient pas, et puis finalement c'est de la mauvaise foi masculine. Il dit bah oh, finalement tant mieux qu'elle soit pas venue, quoi. Mais non, il y a quelque chose de, il va y avoir quelque chose de très gai dans la poésie, et les poètes ne sont pas des. Non, Darwish est un grand amateur de vin, par exemple, et puis il aimait bien faire la fête.
Il y a un artiste qui est venu ici qui s'appelle Barış Dugruzo, dont les parents sont des immigrés turcs des années 60, qui sont à Strasbourg et qui maintenant vit au Liban, qui avait fait une œuvre d'art dans l'endroit le plus snob de Paris, la Fondation Cadis, à propos d'art contemporain. Et c'était une cité en Syrie avec tous les envahisseurs qui viennent. En fait, c'était des images qui passaient. Et le texte était lu par une machine dans le genre, comme en science-fiction, chez Philippe K. Dick, un robot. Et c'était très, très poétique et ça marchait très, très bien. Et on avait une impression d'épopée, la grande poésie. Et je pense que c'était naturel, que donc ça fonctionnait, c'était en anglais en plus, mais je pense que ça fonctionnait naturellement et que c'est quelque chose que quand il travaille au jour le jour dans l'endroit où il est à Beyrouth, c'est accepté par tout le monde, c'est quelque chose qui est populaire. On a une cité, c'est l'histoire de la cité. À un moment, il y a 50 000 personnes, ce qui est énorme, au Xe siècle, dans la cité. Après, c'est envahi par le sable. Après, il y a l'invention de la poudre à canon, donc les fortifications ne servent plus à rien. Tout ça. Et tout ça défile, hein, comme dans l'Iliade ou l'Odyssée. Tout ça défile et c'est très beau et c'est scandé même un peu. Enfin, c'est scandé. C'est pas des vers, c'est pas des alexandrins, mais c'est quand même rythmé. Il y a une scansion, il y a une interprétation, il y a du feeling, il y a du groove, et ça marche très très bien. C'est très difficile en France d'avoir du groove dans ce qu'on fait. Putain, c'est difficile. Hein, c'est quand on écrit, c'est difficile. Ouais. C'est le boulot d'une vie, quoi. Et je vois très bien le soir à Alexandrie, un type qui raconte à son, enfin, qui brusquement, c'est une poésie qui a un petit coup dans le nez, et puis qui, si c'est encore permis,
qui fait une petite
poésie à son camarade, et ça marche, quoi.
Bien sûr.
Donc on a cette inhibition à lever. Et donc, Aline, vous voulez nous redire les dates de votre exposition et...
Oui, non, je voulais.
Ah, qu'est-ce qui vous est venu comme idée pendant tout ce temps?
Non, mais je me disais que la poésie, l'art contemporain, c'est finalement cette hybridation. Est importante et il y a un parallélisme. C'est vrai que on parle de poésie comme parfois on dit c'est chiant, poésie c'est chiant, l'art contemporain est-ce que c'est chiant, et il y a un truc comme ça, il faut retomber sur terre et voilà, et puis écouter, vivre avec, je sais pas.
Mais la poésie c'est bon, moi j'ai toujours cet exemple là la poésie, ça se lit pas pour soi-même, chez soi, en étant assis. La poésie, faut se lever.
Ça change.
La poésie, c'est du sport, c'est du physique. C'est-à-dire que le corps, il doit être investi. Moi, quand je fais mes montages, ma cervelle ne sert à rien. C'est mes jambes qui disent, voilà, c'est ce poème-là, parce que c'est ce rythme-là. Voilà. Et comme disait Léo Ferré, la poésie ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. Mais la poésie, c'est du physique, c'est les poumons, c'est les jambes, c'est le souffle, c'est les cordes vocales, c'est la langue, c'est les dents, c'est la tête, c'est tout ça résonne, quoi. Et j'aime cette idée-là, que la poésie, c'est du physique.
Oui, c'est joli. Ça.
Voilà,
ouais.
C'est tout à fait ça. Ouais, mais sûr. C'est vrai que, moi, bon, juste, moi, quand, si je prends un livre de poésie, et puis que je le lis pour moi-même, sans que mes cordes vocales se mettent en route, bah, je me fais vite chier, quoi.
Voilà. C'est marrant, j'ai un fils qui a 21 ans et qui est rentré dans Mallarmé. Je sais pas, c'est le truc, quelqu'un a dû lui parler de Mallarmé. Oui. Et il est revenu et pendant la nuit, il m'avait pris un de mes livres et il m'a dit, j'y comprends rien, tout ça. Donc, je lui dis, pourtant, il y a une préface de Sartre qui est extrêmement brillante dans l'édition de Gallimard des poésies de Mallarmé, qui est un chef-d'œuvre, cette préface. Et Sartre dit, il invente la poésie avec des termes abstraits, hein, donc c'est ça. Mais je lui dis, écoute, moi je lis pas de poésie, je l'écoute.
Oui.
Et donc je lui ai montré j'ai 15 000 morceaux sur mon iPod là, et je lui ai montré ce qu'il y avait en poésie. Et donc c'est tout à fait différent. Et je pensais à Baudelaire, parce que comme on est à Paris et que Baudelaire a cette notion de badaud, de marché, de foule, dans la, ça s'y prête très très bien. C'était, il y a un mouvement, c'est quelque chose de physique, il y a des articulations. Je vous ai coupé.
Non, je voulais dire qu'il y a aussi poésie et poésie. Par exemple, au marché va intervenir Honoré Do, qui est un artiste belge que vous connaissez sans doute, qui est un artiste de Gand. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour accéder à l'art et au marché, il faut déjà commencer par un rituel. Il faut se mettre en condition. Et c'est très poétique, ça. Et donc il faut aller chercher un petit bâtonnet de câpre, manger ce petit bâtonnet de câpre, et puis là, progressivement, vous allez pouvoir vous être bien, vous sentir bien, et pouvoir dériver au sein du marché. J'aime bien, parce qu'il y a différents types de poésie. La poésie, évidemment, dite, écrite, mais il y a l'attitude poétique qui est vrament très belle aussi.
Mais deux vers de Baudelaire, même quand elle marche, on dirait qu'elle danse.
Oui.
Oh là. Et donc ça veut dire que on est dans la rue, il y a une fille qui marche devant nous, et c'est poétique. C'est quand même pas compliqué, la vie.
La poésie, enfin, pour moi, c'est avant tout du rythme. Et c'est souvent, je dis à quelqu'un qui dit, il me dit, ouais, mais je comprends pas tout. On s'en fout. Ça viendra après. Quand tu danses, quand tu fais l'amour, tu comprends pas toujours tout. T'es pas là en train d'analyser. Habite-toi à dire cette poésie, à l'écouter. Et puis bon, il y a des trucs qui sont un peu obscurs, mais dans 2 mois, ça sera moins obscur. Tu vas comprendre. Et encore une fois, c'est du rythme. Je voulais juste dire quand même le nom de mes camarades musiciens.
J'espère bien.
Hein.
C'est limite, là. J'y pensais tout le temps, mais je me disais, il ne les dit pas. Ah, je sais, peut-être qu'il est fâché avec
eux. En plus, c'est des gens que, vraiment, je les adore, ils le savent, en plus. Alors, il y a, à la basse, c'est Youssef Boukela, qui est un formidable bassiste. C'est un des créateurs de l'Orchestre National de Barbès, mais bon, il joue pas... Il joue dans plein de groupes, et il est quelqu'un de formidable. Il y a Yacine Karoui, qui est un formidable guitariste, lui aussi. Il faut que j'arrête de dire formidable à chaque fois, mais bon.
Génial.
Et Abdeljalil Kadous, qui lui joue de la guitare et du gombri. Alors le gombri, je rappelle que c'est la basse gnawa. Jalil est marocain, il est de Ouarzazate. Donc le gombri, il est un peu né avec. Et ces trois personnes, je les aime.
On parlait de jazz, de free jazz. Il y a un disque formidable de Randy Weston où il enregistre des gnawa. Donc, il a fait un vinyle, un vrai disque de l'époque avec cette musique gnawa. Et c'est absolument fabuleux. Donc, il y a pas mal de ces Américains noirs qui sont allés au Maghreb pendant
Jimi Hendrix.
Oui. Et puis, il y en a qui sont restés. Allez.
Non, juste donc les dates du marché.
Bien sûr.
Donc ça commence mercredi 2 octobre et ça se termine le 13 octobre. Le marché est ouvert tous les jours, sauf le lundi, et ferme à 14h30 le dimanche. Et on vous attend nombreux donc pour le vernissage, donc à partir de 16h, donc le 2 octobre.
Et donc c'est de 16h à 19h parce que le marché ferme.
En fait, le marché ouvre de 9h à 13h et ensuite de 16h à 19h30.
Ah oui.
Et est fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Et donc c'est un mercredi.
Et c'est un mercredi, oui.
Ça va être difficile pour les gens de venir, ceux qui travaillent.
C'est ça. Et en fait, j'ai grand espoir que les commerçants vont tellement aimer qu'ils vont accepter de laisser le marché ouvert un peu plus tard. On verra bien. Enfin, voilà. En tout cas,
c'est une nouvelle aventure.
Oui, absolument.
Merci à vous deux d'être venus. C'était très agréable.
Merci.
Jolie matinée.